Alors, bienvenue au balado épicier au détail près. Nous sommes aujourd'hui dans une série de balados de trois sur l'expérience en magasin et la technologie. Pour ce deuxième épisode, j'ai le privilège d'être avec Camille, qui est la PDG de Libre Dépanneur, un concept qu'il dit en tant que tel, un dépanneur libre-service ou à peu près, et ainsi qu'Olivier Roy, qui est cofondateur de Livre, qui est la technologie derrière ça. Donc, je ne veux pas aller dans les détails parce que je voudrais qu'ils se présentent et qu'ils me disent un peu qu'est-ce qu'ils font et où ça s'en va. Donc, je commencerai avec toi, Camille, qui pourra en même temps nous donner, nous ouvrir avec un bref historique du dépanneur et de nous décrire un peu ce que Libre Dépanneur est et l'implication d'Olivier dans tout ça.
Oui, donc bonjour Robert. Premièrement, merci de l'invitation. C'est vraiment agréable de participer à ce podcast. Donc, pour faire un bref historique là, du dépanneur libre-service qu'on a ouvert au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, on est un peu à cheval entre les deux, là, donc c'est pour ça que je mentionne les deux, donc à Saint-Léandre, dans la Mercier de la Matanie. Vous dire un peu comment ça a commencé, c'est que moi, à la base, j'ai une compagnie de fabrication de micro-maisons. Okay, donc, on est un peu à côté de ça. Je faisais partie de plusieurs comités de développement dans ma communauté à Saint-Léandre. Puis, on est en train de perdre finalement le dernier commerce de proximité, donc le dernier service qu'on avait dans le village, qui était le dépanneur. J'ai dit à un moment donné à la blague, écoute, on pourrait peut-être faire un dépanneur dans une mini-maison. Finalement, cette blague-là, j'ai investigué un peu pour voir qu'est-ce qui se faisait sur la planète. Je suis tombée sur un projet en Scandinavie de dépanneur libre-service dans des conteneurs qui, eux, finalement, ont pondu ce projet-là pour les mêmes raisons pour lesquelles je faisais mes recherches, parce qu'il n'y avait plus de services de proximité dans les régions éloignées. J'ai donc mis en branle ce projet-là, puis j'ai cherché finalement là, qu'est-ce qui se faisait au Québec au niveau des technologies dans ce sens, donc au niveau des technologies de libre-service, ce qui m'a amené à contacter Olivier, qui a répondu à l'appel là, finalement là, pour le projet. C'est donc à l'automne dernier qu'on a mis tout ça en branle et c'est en juin 2023, là, donc il y a 3 mois qu'on a ouvert le premier dépanneur libre-service au Bas-Saint-Laurent. Je dis le premier parce que je ne crois pas que ce soit le dernier.
Je te regarde en souriant parce que moi, j'ai confiance.
Oui, il y a énormément d'engouement pour ce type de service-là. Parce que c'est une des solutions les moins coûteuses finalement pour réussir à avoir un service de proximité là, dans des régions comme la nôtre. Des régions comme la nôtre, il y en a beaucoup. On s'entend que 45% de la population du Québec fait partie d'un désert alimentaire. Dans les régions comme la nôtre, des régions rurales, c'est le fait d'être à au moins 16 kilomètres finalement là, d'un commerce. Ce qui est la réalité d'énormément de gens dans l'est du Québec, la côte nord et même plus loin encore. C'est de là que vient finalement le projet de Libre Dépanneur.
D'accord. Puis Olivier, lui, est arrivé avec la technologie pour le soutenir, c'est ça?
Oui, mais je vais laisser Olivier expliquer à quel moment pour lui ils sont entrés dans notre projet, mais je sais qu'à la base, quand nous on les a contactés, on leur a demandé finalement là, de développer plus ce qu'il y avait déjà là, de base là, dans leur technologie, leur service finalement. Je pense qu'on leur a lancé un petit défi, puis ils ont vraiment bien répondu à l'appel.
Ouais, exactement. Je pense une des premières affaires qui a bien connecté, c'est qu'on avait un peu la même vision d'entreprise dans un sens. Trouver une façon d'avoir des magasins autonomes qui sont facilement déployables, faciles à mettre en œuvre sur le marché et abordables. Ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement toujours dans l'industrie. On va voir des technologies très dispendieuses comme Amazon Go et les autres dans le même type. Et tout comme Lib, qui voulait faire des dépanneurs qu'on peut envoyer sur un camion, on le dépose, c'est abordable et rapide à mettre en place. Nous, c'est le même principe, c'est une technologie qui est simple, beaucoup moins complexe qu'un un Amazon Go qui utilise la vision par ordinateur. Donc, c'est tout simplement notre technologie initiale avant qu'on rencontre Camille. On était chez La Vie en Rose, où est-ce que tu rentres en magasin, tu scannes un code QR, de là, ça lance une application web. Donc, encore là, pas d'application à télécharger, pas de compte à créer, et on scanne nos produits et on les paye. Pour Lib, c'est sûr qu'on a dû venir faire une modification à cette technologie-là parce qu'il faut débarrer la porte. Il faut avoir une certaine sécurité pour le dépanneur. Donc, il faut avoir un compte utilisateur ou une façon de faire une préautorisation de paiement. Donc, c'est dans les questions qu'on avait. Comment est-ce qu'on va avoir une expérience client qui est facile d'utilisation, mais qui reste sécuritaire pour Lib? Donc, c'était toute la démarche qu'on a fait depuis plusieurs mois et qu'on continue à améliorer mois après mois. Notre but, ça reste toujours pour le client que ce soit simple, mais aussi pour les détaillants, donc pour Lib, à déployer à grande échelle. Donc, le jour où il va y avoir le prochain dépanneur Lib, le but de notre côté, c'est que ce soit simplement un serveur à déployer, en fait, juste activer une organisation et c'est tout. On connecte au matériel qui est dans le magasin et on veut garder ça très simple.
Je trouve ça vraiment, écoute, évidemment, ça m'interpelle énormément. Aujourd'hui, je ne voudrais pas nécessairement aller voir dans les produits que vous vendez ou la technologie, mais j'aimerais un peu socialement savoir, parce qu'on va dire que, tu sais, comme Charles a parlé tout à l'heure dans l'autre épisode au niveau des jeunes tech-savvy qui étaient déjà prêts, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quel genre de clientèle se présente là, puis s'il y a des frictions au niveau de l'âge, puis du téléphone, puis des choses comme ça? Comment ça s'est passé à date, après, c'est bien 4 mois que c'est ouvert, Camille, c'est ça?
Oui, depuis la Saint-Jean, là, donc ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois là, que c'est okay. ouvert.
Comment les clientèles, est-ce que vous avez un peu de données sur les clientèles que vous avez, puis si c'est juste des jeunes qui viennent chercher du chocolat ou on a vraiment une clientèle de tous âges avec tous les moyens technologiques possibles?
Moi, je dirais qu'on a une clientèle de tous âges. Ça nous a quand même relativement surpris en ce sens qu'on se disait, bon, OK, oui, les jeunes vont, ça va être plus facile pour eux, ils vont venir plus. C'est certain que nos clients qui ont plus d'aisance avec la technologie, c'est les jeunes. Ça, on n'avait même pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Ils scannaient les codes, ils rentraient. C'est eux qu'on a vu qui ont eu vraiment comme un espèce de wow, là, si on veut, là, autour de ce dépanneur-là. On a vu des jeunes de d'autres villages monter avec leurs amis, leur montrer le nouveau dépanneur. C'est devenu une attraction. Ça, on a trouvé ça vraiment intéressant. Par contre, je ferais vraiment pas d'agisme parce que la clientèle, ben, c'est plus au niveau de son aisance avec la technologie. Puis ça va dans toutes les tranches, finalement, là, d'âge. Là. Donc, il y a des personnes qui sont plus âgées, qui sont super à l'aise, ils rentrent là, il n'y a aucun problème. D'autres qui sont plus jeunes, qui ont à peine une tablette qui fonctionne pas très bien. Puis ben, là on voit des problèmes, souvent à cause de leur... leur technologie à eux, finalement, leur cellulaire là, qui est désuet ou leur tablette qui est désuète. Mais sinon, là, c'est vraiment pas une question d'âge en tant que tel. C'est vraiment plutôt une question d'aisance avec la technologie. Puis, c'est sûr que la pandémie nous a vraiment aidés, là, finalement, à rendre ça plus accessible, si on veut, là, parce que pendant la pandémie, ben, il a fallu qu'on s'habitue d'avoir des codes QR sur les tables quand on allait au restaurant, quand on a pu y aller. Tu sais, fait que ça l'a vraiment comme éduqué, si on veut, la population au libre service. Donc, ça, c'est sûr que ça l'a aidé à un certain point.
OK. Mais écoute, je trouve ça intéressant, mais de toute façon, moi, ce que j'aime penser de vous, c'est que vous n'avez pas géré à l'exception. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a un qui n'a pas de téléphone qu'il faut se priver toutes les autres de pouvoir avoir le service. Et ça, j'ai trouvé ça très dynamique dans votre approche. Mais au fur et à mesure, c'est sûr que de la journée 1, quand ça a ouvert à Saint-Jean, puis aujourd'hui, est-ce qu'il y a bien des choses que vous avez dû changer pour vous adapter? Je parle pas des produits, parce que les produits sont en évolution, puis vous avez trouvé des nouveaux SKU, des choses comme ça. Mais au niveau de la gestion, est-ce que vous avez vu que ça vous a permis d'être beaucoup plus adaptatif sur les prix que vous vendez, sur l'organisation interne, les commandes? Ça doit complètement révolutionner la façon de gérer aussi, là.
Bien, au niveau de la façon de gérer, c'est sûr que dans les débuts, il a fallu qu'on adapte, là, finalement. Là, on a eu un travail à faire avec l'équipe de Liv, là, l'équipe d'Olivier, parce qu'on avait voulu, au départ, là, imposer la création de compte au nouveau client, ce qui faisait que là, c'était plus laborieux. Il passait 5-10 minutes, c'était fâchant, il fallait qu'il... qui voient dans leur courriel. Bon, ça devenait un peu complexe. Fait qu'il a fallu qu'on étoffe un peu notre solution pour l'amener la plus simple possible d'utilisation pour que le client, il rentre facilement, il fasse ses achats, puis il parte le sourire, finalement, avec le sourire. Parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des frictions quand on en demande beaucoup aux clients. Il faut que ça soit le plus simple possible.
Que ça soit en deux clics, comme sur un site web, on dit que c'est opérationnel en deux clics.
Exact. C'est vraiment le lazy, là, c'est la solution là, pour les technologies. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'approvisionnement, de notre côté, ça va être une adaptation parce que... les fournisseurs vont demander des minimums qui, pour nous, ces minimums-là sont astronomiques. C'est certain qu'il a fallu faire des arrangements avec certains fournisseurs. Et il y a encore certains articles qu'il faut aller chercher nous-mêmes dans les entrepôts des fournisseurs dans la ville voisine, donc à Matane. Donc, c'est sûr que ça a son lot, finalement, de complexité. C'est pas comme un commerce standard. Sauf que... l'idée derrière, donc la volonté de vouloir aider la communauté à amener les fournisseurs à faire certaines exceptions pour nous. Donc, ils vont monter, même si on n'a pas les minimums, tu sais, ils vont nous approvisionner quand même à cause de la nature du projet qui est à savoir social, si on veut. Parce que, tu sais, nous, le but, c'est de redonner à la communauté son autonomie.
L'accès à des produits de première nécessité.
Exactement. C'est donc, c'est vraiment de par la nature du projet, on a l'oreille et on a finalement l'appui là, de plusieurs fournisseurs. Là. Donc, ça, c'est sûr que ça nous a aidé énormément.
Tu penses-tu, Camille, puis Olivier, je te questionne en même temps. Est-ce que ça fait vraiment office, selon vous, de projet pilote, dans le sens où depuis l'ouverture de la Saint-Jean, on a, de ton côté, Olivier, énormément évolué dans la technologie, dans l'approche, toi, Camille, au niveau de la perception pour, tu sais, quand tu vas être prête à déployer des libs un peu partout, qu'on va être rendu là. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes en train de le révolutionner, ce genre de commerce-là, par votre implication?
Bien, on fait partie des premiers, finalement. En Amérique du Nord, du moins, là, en Europe, c'est un peu plus déjà là, débourré, si on veut. Mais en Amérique du Nord, on fait partie des premiers à oser, avec des concepts, à tester finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, on est précurseur dans quelque chose qui va être l'avenir. T'sais. Je dis pas que ça va remplacer toutes les caissiers puis que ça va remplacer le contact humain, parce que oui, il est important le contact humain, mais dans un contexte où le contact humain n'est pas possible, dans ce sens où les ressources coûtent cher, il y a plus beaucoup de finalement là, de disponibilité au niveau des ressources humaines, la pénurie de main d'œuvre pour ne pas la nommer, ben c'est sûr qu'on vient répondre à quelque chose, donc c'est sûr que ça fait partie de l'avenir du commerce lorsqu'on est dans.
J'oserais dire aussi, tu sais, il y a pénurie de main d'œuvre, Camille, mais aussi pénurie de désir de travailler dans un environnement répétitif, tu sais, de scanner un produit dans un dépanneur ou une épicerie où là, si on mettait quelqu'un, ce serait peut-être quelqu'un qui viendrait plus être entertainer que juste scanner. Donc, moi, je pense que la pénurie de la main-d'œuvre, c'est aussi une pénurie de désir de travailler dans un certain secteur pour la au moins, là, ils se font moins voler, il y a moins d'argent.
Oui, tout à fait. Puis, vas-y, Olivier, je vais te laisser parler après, mais j'ai juste ajouté, nous, au niveau du contact avec la clientèle, on a quand même ajouté un outil technologique qui est une caméra là, avec laquelle on peut parler directement au consommateur, là, donc à la personne qui est dans notre commerce. Il y a juste à appuyer sur le bouton, puis on peut se parler en live. Là. Donc, ça c'est... Ça rajoute, je dirais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié ça. Ils sentent qu'ils sont pas seuls dans le commerce. Ils sentent qu'on peut les aider. Donc, on n'a pas complètement éliminé, finalement, là, la relation client. On trouvait ça important.
Sauf qu'une personne pourrait gérer quatre dépanneurs de son bureau. Puis c'est là que ça devient intéressant. Puis écoute, moi, j'ai déjà le plan marketing de communication puis créer des événements. Puis, tu sais, je suis excité du projet. C'est pour ça que j'étais content de vous avoir. Mais c'est pas ma job de... moi, je suis juste là pour être sûr que vous disiez tout ce que je veux. Je veux que l'industrie sache.
Robert, je vais aussi rebondir rapidement sur un point que tu disais sur l'aspect pilote. Est-ce que ce projet-là, c'est encore un pilote? Selon moi, en ce moment, en commerce de détail, c'est important de voir presque tout comme un projet pilote constant. Du moment que ce n'est plus un pilote, on arrête d'innover, on arrête de trouver des façons de le rendre meilleur. Et surtout en ce moment, avec ce que vous dites sur le problème de manque de main-d'œuvre, les jeunes, c'est tellement facile d'avoir une job en télétravail, des salaires super importants, même sans université, ou avec ou sans université, à l'étranger ou sur place. Je suis prêt à aller me louer une maison dans le fin fond du Québec qui me coûterait 1000 fois moins qu'à Montréal et facilement avoir une job. Donc, c'est sûr qu'il y a cette partie-là qui Fait que c'est difficile d'avoir des employés. La rétention d'employés, là, il y a deux semaines, j'étais à Toronto avec quelques détaillants et on discutait de ce point-là. Comment est-ce qu'on fait pour retenir les employés avec des bénéfices aujourd'hui? Les salaires sont rendus beaucoup plus élevés. Donc, le problème de main-d'œuvre, le consommateur qui change constamment, le consommateur d'aujourd'hui est rendu habitué à utiliser du buy now, pay later. Pour livrer des produits chez soi ou faire du buy online, pick up in store, comme on appelle. Il y a tellement de différentes méthodes d'achat pour le consommateur et l'employé demande de plus en plus d'affaires et les technologies changent tellement rapidement qu'il faut garder cette mentalité-là de, bon, on teste, on a une solution déployée qui est production, mais il faut tester, il faut venir faire des prototypes et des projets pilotes constamment pour se rester dans la game, qu'on pourrait dire en bon français. Donc, ouais, selon moi, c'est toujours innover. Puis on va continuer à le faire dans les prochaines années. Puis je suis sûr qu'avec Camille, on a plusieurs idées qu'on veut aller tester.
Le concept est unique au niveau du déplacement ou de la mini dépanneur parce que le concept d'épicerie autonome ou sans personne à L24 puis aux États-Unis on en voit puis en Europe ouais. Il faut bien dire qu'on n'est pas unique dans le concept mais unique dans la façon, ok, puis c'est important oui. de le dire, mais est-ce que ça fait partie de votre processus d'être allé voir ces technologies là, ces concepts là pour justement se benchmarker puis voir où nous, parce qu'on n'est pas différent des autres, des fois on arrive un peu plus tard mais on n'est pas différent des autres consommateurs, mais de l'avoir implanté dans votre secteur, cette praticité proche. Puis c'était un peu comme on disait dans le temps, on allait tester des choses à Chicoutimi parce qu'il y avait le parc à traverser, là, mais c'était un peu la même chose chez vous pour être vraiment pas teinté d'aucune autre offre différente pour vraiment aller le chercher. Je pense que ça, c'est intéressant, Olivier. Mais est-ce que votre technologie que vous avez pour le libre, Olivier, sert aussi à... Ben, tu parlais tout à l'heure de la vie en rose, mais est-ce que dans l'alimentaire, vous avez déjà commencé à déployer votre technologie pour d'autres commerces alimentaires? Mais je sais que tu peux pas parler de tout, OK, Olivier? Tu as le droit à ton devoir de loyauté puis ton DNA de non-disclosure, mais est-ce que vous êtes en train d'aider l'industrie à évoluer aussi, pas juste Libre Dépanneur?
Alors, on a des dossiers dans l'alimentaire, mais pas comme Libre Dépanneur. Okay. Donc, les autres dossiers qu'on a sont pas avec la porte qui se débarre. En fait, dans la restauration, on a un dossier en ce moment qui permettrait d'acheter des produits qui sont en prêt à manger. Okay. Sans devoir passer à la caisse. Et l'idée pour ça, c'est... en fait, c'est assez simple. C'est qu'on arrive dans le restaurant, il y a plein de frigos de produits, mais on doit quand même faire la même file que les gens feraient normalement pour payer. Et comparé à un commerce traditionnel ou une épicerie, un restaurant, c'est souvent plus petit, il y a moins d'espace. Donc, une bonne libre-service pourrait très bien fonctionner, mais c'est en plein milieu des jambes. Ça coupe l'espace, ça diminue la circulation. Et ça reste qu'il y a un problème de file d'attente. Il y a un nombre maximum de gens qui peuvent l'utiliser. Et quand on regarde les heures de pointe, donc le midi et vers 6 heures, quand les gens quittent le bureau puis s'en vont chercher leur repas du soir ou quelques repas pour la semaine, ben ça crée des gros points de friction. Puis ça, les points de friction dans le monde du commerce de détail en entier, c'est un défi. On parle de 465 milliards dans le monde entier de pertes annuelles dues à la friction des lignes d'attente.
Écoute, c'est cut the line, là, je veux dire, tu sais, je dis souvent chez Starbucks qu'il y a ceux qui ont compris, puis il y a ceux qui vont encore à caisse payer. Là, je veux dire, c'est puis dans plein d'autres commerces, on en est là, mais je suis d'accord avec toi. Camille, je m'excuse, mais je te pointe, mais est-ce que quand tu te promènes dans d'autres commerces de détail, dépanneurs, surtout, comment tu vois le futur? Est-ce que tu vois que ces dépanneurs-là, je ne dis pas que ça va être des libres avec la porte, mais est-ce que tu vois qu'ils ont le potentiel d'évoluer puis de devenir un peu plus autonomes? Tu sais, dans ta boule de cristal à toi, Camille, quand tu vois ce que tu as travaillé, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu penses que l'industrie est prête à s'en aller un peu vers là?
Prête, je sais pas. mais on s'en va vers ça. Donc, il faut que les commerces s'adaptent. Je dis pas qu'il faut que tous les commerces changent. T'sais, nous, au final, on arrive là, le prototype qu'on a fait, c'est un dépanneur. mais on arrive avec une solution qui peut s'adapter aux réalités de beaucoup de producteurs pour pouvoir vendre finalement en boutique, donc dans des micro-commerces libre-service.
Ça pourrait être monoproduit, ça pourrait être monoproduit, monoconcept.
Okay, tout à fait.
C'est pas... Le produit n'est pas important, c'est la méthode, hein?
Exactement. Puis nous, c'est vers ça qu'on s'en va. L'entreprise s'appelle Micro-Commerce Libre parce que on veut aider plusieurs commerçants ou plusieurs producteurs, finalement, à venir rejoindre leur clientèle. Et ça, 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec moins de personnel impliqué, finalement, dans tout le processus de la vente directe au client. Fait que, tu sais... Oui, il y a une évolution à faire dans le commerce du détail. Puis, ben là, nous, finalement, on est là pour aider à cette évolution.
Évidemment, si vous allez sur le site de Libre, vous allez voir tout ça. Mais ta gamme de produits dans le dépanneur, est-ce que c'est... Il n'y a probablement pas de tabac, pas de boisson parce que ça, c'est limité. Mais vous avez frigo, congélateur. Est-ce qu'il y a des produits prêts à manger aussi? Est-ce que il y a combien de SKU? Il y a combien de produits listés dans un Libre dépanneur aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est à 425 SKU-ish. On a vraiment là, une gamme de produits très diversifiée. Donc, tous les produits de base de pharmacie. Les prêts à manger, on pousse quand même pas mal là-dessus. Produits locaux, on essaie d'en rentrer là, de plus en plus parce qu'au final, si on est un commerce de proximité, on veut aider aussi le producteur local à pouvoir finalement le vendre ce qu'il produit. Donc ça, c'est très important pour nous. Oui, ça va là, de ce qu'on retrouve en dépanneur normal. Là, donc oui, il y a des bonbons puis du chocolat. C'est ça, on veut vraiment donner une saveur locale là, finalement là, à nos commerces.
OK. Écoute, je perds un peu la notion du temps parce que je trouve c'est vraiment intéressant, mais je pense qu'on vient de faire un bon 20 minutes pour expliquer un petit peu où on s'en va, mais c'est tellement inspirant parce que le commerce de détail doit absolument évoluer, puis j'inclus tous les types de commerce, puis on voit les grandes chaînes, les grandes bannières, mais je pense que pour le commerce indépendant, OK, il doit absolument trouver des façons d'innover comme vous l'avez fait pour survivre versus les grandes chaînes, puis on croit aux grandes chaînes parce qu'ils sont la Formule 1 du monde automobile, puis ils nous amènent les technologies puis les choses comme ça, mais j'ai beaucoup d'admiration pour l'énergie que vous avez mis là-dedans, puis où vous en allez, puis je vois tellement de potentiel. Merci beaucoup. On va revenir un petit peu avec Olivier tout à l'heure sur what's in it for you, mais Camille, lâche pas, c'est vraiment trippant de voir où tu t'en vas, puis l'ouverture que vous avez vers tout le commerce de détail, puis longue vie Libre, comment qu'on a appelé ça, Libre commerce, donc répète ça. Parce que moi je dis Libre dépanneur, mais vous avez t'as un autre nom de compagnie que tu me disais tout à l'heure là.
Oui, ça s'appelle Micro-Commerce Libre. Le Libre dépanneur est un de nos
produits. Exactement. Écoutez, merci infiniment. Je vous rappelle que vous écoutez le balado épicier au détail près, puis là on est vraiment dans le détail près. Et aujourd'hui, notre thème des trois balados, c'est plus l'expérience en magasin au niveau technologique. Donc, merci encore Olivier, merci encore Camille pour votre générosité. Et j'espère que tout le monde va aller voir le site web de Libre Dépanneur pour aller voir comment c'est énergisant et c'est dynamique.
Oui, merci beaucoup à toi, Robert.
Merci beaucoup.